1901, place aux associations.
Et sur 1901, il est 10h11 sur Radio Uno exactement. Chantal nous présente les Alcooliques Anonymes avec Christine et Karim. Bonjour.
Oui, bonjour à tous et à toutes. Bonjour Christine, bonjour Karim.
Bonjour. Donc,
Christine, bonjour. Vous êtes la présidente de l'association Alcooliques Anonymes Champagne-Ardenne.
Oui, c'est ça.
Donc, vaste tâche.
C'est, oui, tout à fait.
Et donc, pour résumer, je pense que les gens connaissent un peu, mais l'association Alcooliques Anonymes, c'est pour essayer d'aider les gens qui ont des difficultés avec l'alcool. Voilà.
Écoutez, l'association, elle a été créée par, historiquement, par deux personnes qui étaient alcooliques et qui n'arrivaient pas à s'en sortir. C'est né aux États-Unis. Et deux personnes qui n'arrivaient pas à poser leur verre, à arrêter de boire, se sont rendus compte qu'en parlant entre eux, ils arrivaient à maintenir leur abstinence. Donc de là, évidemment, il y a eu un effet d'émulation et aujourd'hui, le mouvement se retrouve partout sur les 5 continents, des groupes alcooliques.
Ah oui, il y a sur tous les continents.
Tous les continents.
Ça veut dire qu'il y a de l'alcool partout.
Ah mais il y a de l'alcool partout, je vous confirme.
Voilà, donc... J'aimerais bien qu'on commence par les modalités pratiques. Comment on en arrive à participer aux réunions des AA? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des... Enfin, je sais qu'il n'y en a pas, mais... Est-ce qu'il y a des formalités précises à remplir? Comment ça se passe?
Alors, en fait, c'est très simple sur le fonctionnement. Maintenant, ça doit venir de la personne. Une fois que la personne est prête... Donc, moi, je vais parler de mon cas. Moi, j'en avais marre d'en avoir marre. Ça n'allait pas du tout. Parce qu'en fait, chez Alcoolique Anonyme, il n'y a pas de médecin. On est vraiment entre nous que des personnes.
Mais on y reviendra, ça, justement.
D'accord,
les gens qui
très
composent.
Bien. Et en fait, il suffit de venir sur soit notre site internet Alcoolique Anonyme France. Comme ça, vous avez la liste de toutes
les
réunions. Voilà. Et en fait, il y a deux types de réunions. Il y en a même trois avec le téléphone. Il y a la réunion physique, comme nous avons à Châlons-en-Champagne et à Reims pour la Marne.
Oui.
Donc, à Châlons-en-Champagne, espace Gabriel.
On rappellera tout ça aussi à la fin de l'émission.
Parfait. Écoutez, vous avez pensé à tout, c'est merveilleux. Il n'y a plus rien à faire. Au revoir, madame. Et donc, c'est...
Soit des réunions physiques, faites des visios aussi.
Des visios. Il y a des visios, alors là, vraiment, tout au long de la journée, quelqu'un qui sera en difficulté, qui a besoin, même à 23h, vous pouvez vous connecter.
Sur le site internet.
À partir du site, vous avez un lien.
Voilà, un lien vers les visios.
Voilà. Et en fait, on n'a pas besoin d'adhérer.
C'est
la grosse différence avec les associations classiques, on va dire. Il suffit de se présenter et de. La seule condition pour être membre de notre association, c'est un désir d'arrêter de boire. Donc aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a la gestion des risques sur l'alcool. Nous, on n'est pas là-dessus du tout. On ne fait pas de polémique. Hein. Si ça peut aider d'autres personnes, pourquoi pas. Chez Alcoolique Anonyme, on est sur plutôt l'abstinence totale. Alors au début, ce n'est pas toujours simple. Hein. Ce n'est pas parce qu'on dit c'est l'abstinence totale que ça tombe du ciel. Hein.
Mais c'est une addiction, donc on sait bien que c'est très difficile de s'en défaire.
C'est exactement ça.
Mais les gens y arrivent.
Bah, écoutez, on est un sacré nombre d'années des... Ben voilà, on est des milliers dans le monde à avoir l'abstinence grâce aux Alcooliques Anonymes.
Et il n'y a pas de condition d'âge, enfin ça, vous
non.
le savez, mais pas de
homme,
femme, pas de condition d'âge, ça peut être un... Et un mineur, par exemple, ça peut ou...
On a déjà accueilli des mineurs. Donc on fait vraiment très attention, puisque, évidemment, il y a toujours le côté de l'autorisation parentale. Ça nous est déjà arrivé. Maintenant, alors moi, en tant que femme, si c'est une femme qui vient, je fais très, très attention pour vraiment l'accompagner. Et puis, par contre, aujourd'hui, on n'a pas de mineurs qui reviennent régulièrement. Les personnes sont venues, elles savent qu'elles ont une relation un peu particulière avec l'alcool, parce que ça, vous savez, ça démarre comme ça. Hein. On sait qu'on a une relation un peu spéciale avec le produit. Et puis, voilà, elles sont venues voir et puis elles sont reparties.
Et peut-être qu'elles reviendront.
Bah, écoutez.
Ou alors elles auront arrêté. Enfin, elles auraient arrêté les excès, parce que.
C'est possible.
On peut boire de l'alcool sans être excessif. La difficulté, c'est quand ça devient vraiment.
Obligatoire,
un besoin physique.
Puis quand on commence à consommer seul, souvent, c'est pas bon signe.
C'est ce qu'on dit.
En tout cas, voilà. Moi, ça a été mon cas quand j'ai commencé à boire seul.
Et concrètement, que ça se passe comment vos réunions, comme ce qu'on voit généralement, c'est-à-dire vous vous mettez en cercle et vous échangez, vous vous présentez déjà, c'est ça?
Alors, il n'y a pas de cercle chez nous, c'est oui. une table, comme une table rectangulaire. Oui. Allez, rectangulaire. Oui.
Mince, pas cercle. Déjà, pas cercle, voilà. Le stéréotype est tombé.
Il y a beaucoup de choses qui sont dites sur Alcoolique oui. Anonyme. C'est vrai qu'il faut faire l'expérience pour se rendre compte. Hein. Donc, on voit beaucoup de choses dans les feuilletons américains, mmh. on voit des choses un oui. peu oui. excessives. Donc on est autour de la table, il y a effectivement quelque chose qui est cadré, parce que vous allez retrouver le cadre des alcooliques anonymes de la réunion à Chalon, mais vous allez la retrouver aux États-Unis.
Mais parce qu'il y a 12 étapes, c'est ça?
Oui, alors les 12 étapes, on ne les fait pas toutes ensemble.
Mais j'imagine si c'est des donc étapes, on les fait une
c'est ça la différence en fait avec les autres associations.
C'est une espèce de protocole, c'est ça?
Il y a un protocole, oui. c'est-à-dire une ouverture, comme vous avez vos jingles, mmh. là, nous on a des textes d'ouverture pour se rappeler en fait, parce que quand on arrête de boire, c'est quand même très facile d'oublier d'où on vient. Et parce que cette maladie-là, elle est quand même vachement sournoise. Donc, quelquefois, on se dit, bon, bah, ça va mieux. Donc, on pourrait caresser le doux espoir de se dire, bah, ça y est, c'est terminé, c'est derrière. Sauf que cette addiction, elle est toujours en veille dans le cerveau.
Bah, donc, comme le tabac.
C'est exactement ça.
C'est pareil, ça reste ancré.
Mais pour certains, c'est la nourriture, pour certains, c'est le sexe.
C'est ça, c'est une addiction.
Voilà.
Alors, quand on cumule tout, ça doit être compliqué.
Bah, c'est, bah,
ça fera l'objet d'autres émissions.
Non, excusez-moi.
Alors, les 12 étapes, vous en avez parlé, Alain. Mmh. C'est en fait un programme qui travaille sur qu'est-ce que je peux faire pour ne pas retourner d'où je viens. Donc c'est un travail sur soi. Mmh. C'est la grosse différence en général avec les autres associations d'anciens buveurs, ce qu'on appelle les associations néphalistes.
Ah, je connais pas.
Mmh. C'est le terme
scientifique.
Oui, bon, anciens buveurs.
Karim, vous vouliez dire quelque chose?
Non, j'écoute avec beaucoup d'attention ce que
ce que dit Christine.
Ce que dit Christine. Non, bah, en fait, si vous voulez, quand on pose son verre, souvent, ce qui est compliqué, bah, c'est tout le temps même. Hein, je veux dire, c'est ce qui est compliqué, c'est de tenir son abstinence en fait, parce que on l'a évoqué là à l'instant. En fait, c'est une addiction et il y a une, alors elle est physique dans l'alcool, c'est une drogue dure. Hein, faut pas oublier.
Il y a un besoin.
Pas oublier, l'alcool c'est une drogue dure et donc il y a vraiment on a des séquelles physiques, etc. Enfin, en fait physiquement on est impacté. Après, une fois qu'on est sevré, etc., tout ça, il y a tout un cheminement en fait. Et là où moi j'ai trouvé mon compte chez les alcooliques anonymes, c'est que quand je suis arrivé déjà à ma première réunion, j'avais beaucoup d'appréhension. J'avais beaucoup d'appréhension. Je me disais parce que justement on l'a évoqué, vous avez cette image que le cinéma, les séries télé ou véhicule, c'est-à-dire un petit peu ce groupe sectaire, etc.
Oui, c'est pas une secte. Hein.
Ouais,
pas
où,
du tout.
Et pas du tout, justement, bien au contraire. Et là, je suis arrivé, et en fait, à ma première réunion, et j'ai vu des gens qui allaient très bien. Je m'attendais à voir des, comme, pardonnez-moi l'expression, mais des pochetrons,
des
gens imbibés, etc., tout ça et tout. Des gens marqués et tout. Et non, j'ai vu des gens qui allaient bien. J'ai des gens qui allaient bien, et je me suis dit, mais c'est extraordinaire, en fait, parce que, en fait, ça a été comme une espèce de révélation pour moi. Je me suis dit, si je veux m'en sortir, parce que j'ai été dépendant très longtemps, physiquement, et quand je suis arrivé, en fait, j'étais désespéré, comme l'a si bien dit Christine, en fait, j'étais complètement désespéré.
On est mal psychologiquement aussi, ça doit être dur de lutter, quoi.
J'étais à bout, parce que il y a une différence entre se savoir alcoolique et s'admettre alcoolique. On n'en a pas parlé, mais souvent, hein, les gens qui ont un problème avec l'alcool sont dans le déni. Ils savent qu'ils ont un problème intérieurement, ils le savent, ils en parlent de temps en temps, mais ils disent qu'ils vont gérer, etc. Moi, j'étais comme ça.
Je veux dire, sauf qu'à un moment, ça déborde. Enfin, si j'ose dire, peut-être l'image n'est pas bonne, mais...
Non, mais tout à fait. Mais, de toute façon, si vous voulez, c'est exponentiel. C'est-à-dire que un verre en appelle un autre. Et tous les matins, on se réveille en se disant, ça y est, c'est fini, aujourd'hui j'arrête. Et plus on avance dans la journée, plus en fait, on a ce besoin irrépressible de boire.
C'est un besoin, ouais. C'est un besoin physique.
Et bien sûr, de temps en temps, on essaye, on fait des sevrages sauvages. Qui sont extrêmement dangereux. C'est parce que on peut faire un délirium très mince, on peut avoir des gros soucis de santé, voire même aller jusqu'à la crise cardiaque. On est dépendant physiquement. Et longtemps j'ai été dans le déni en me disant je vais gérer. En fait, j'y arrivais plus rien. Et quand je suis arrivé, je vous dis, dans les salles de réunion, parce que là, j'ai vu des gens qui allaient très bien et qui étaient heureux. Et ce qu'ils avaient, moi, je le voulais. Très sincèrement, ce qu'ils avaient, moi, je le voulais. Et c'est comme ça que j'ai commencé à venir à une réunion, puis une deuxième, puis une troisième, etc. Aujourd'hui, ça fait quand même quelques années maintenant, même si je reste encore un jeune abstinent. Ça fait 6 ans, bientôt.
6 ans, c'est
bientôt bien. Bientôt 7, mais ça fait 6 ans. 6 ans et 11 mois. C'était. Pour moi, ça a été une vraie révélation. C'est pas compliqué de pousser la porte. Enfin, moi, ça l'a pas été. Il y a des gens, je sais, pour qui c'est difficile de s'abonner.
Ça revient à ce que vous disiez, d'admettre qu'on est alcoolique. Ouais. C'est ça qui est dur.
Par contre... On a évoqué les étapes. Et en fait, ces étapes, elles ne sont pas là pour rien. Et il faut savoir que les gens qui ont pensé les alcooliques anonymes, qui ont créé l'association et qui ont pensé le programme, c'est des gens qui ont essuyé les plâtres. Et donc, ils se sont rendus compte qu'il y avait le malade alcoolique, là je parle, mais le dépendant en général passe par différentes étapes. Psychologiquement.
Mais il y a beaucoup de psychologique aussi. Voilà,
énormément. C'est que ça. Il faut savoir que j'ai une amie qui dit toujours que l'alcool, c'est l'arbre qui masque la forêt.
On dit souvent que c'est un antidépresseur.
Exactement.
Alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais pour avoir connu quelqu'un qui a vécu dans l'alcool longtemps et qui maintenant reboit un tout petit peu, mais jamais plus, je ne sais pas comment elle fait, mais elle avait été suivie par des psys parce qu'elle était vraiment dans un sale état. Et il lui a dit, c'était votre antidépresseur.
Moi, je sais que ça avait cet effet sur moi. C'est-à-dire que quand je buvais, les premiers verres, attention, c'est pas les premiers verres.
Et souvent, ça met en joie, un peu de gaieté.
Ça détend, etc. Mais après, en fait, on n'a plus cette limite quand on est dépendant. C'est-à-dire que, en fait, on passe directement. J'en parle souvent dans les réunions. J'aime beaucoup cette image de Florence Foresti qui dit, moi, je sais pas ce que c'est d'être pompette.
C'est où on boit, on boit pas. Quoi.
Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'elle parle. Moi, ma consommation, c'était un premier verre pour me détendre et puis le reste de la bouteille pour m'achever. J'ai fait ça pendant très 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 longtemps. Quand je parlais des 12 étapes tout à l'heure, en fait, ces étapes, elles sont pas là pour rien. En fait, c'est dans l'évolution du processus de rétablissement, on passe par différents stades. Et tous ces stades, en fait, ils ont été analysés par ceux qui
ils ont été très pensés.
Voilà.
Parce qu'en fait, tout le monde doit vivre à peu près la même chose. Au début, peut-être du découragement ou un manque terrible. Enfin, j'en sais rien, mais ça doit être difficile par moment.
Et il y a aussi, comme l'a dit Christine tout à l'heure, il y a des gens qui, en fait, tout le monde, on caresse tous le doux espoir de pouvoir reconsommer normalement. Et en fait, malheureusement...
Au début. Et après, non, après...
Après, on réalise que...
Il ne faut pas mettre le nez dedans.
Ah, plus jamais. Mais c'est pareil. Cette notion de plus jamais, il faut...
Terrible, moi, je trouve, de penser plus jamais à quelque chose.
Mais il y a tout un cheminement psychologique. C'est ça qui est génial. C'est ça qui est génial parce qu'on l'admet progressivement.
Pour moi, c'est terrible de dire qu'on fera plus une chose plus jamais.
Mais c'est pour aujourd'hui seulement.
Oui, exactement.
Puisque nous, on est sur un programme de 24 heures à la fois.
Voilà, c'est
donc c'est plus jamais aujourd'hui, on boit.
D'accord. On vit aujourd'hui.
Demain, on ne sait pas.
Non, mais c'est...
Le jour se lèvera peut-être pas demain. Donc, on est vraiment sur un programme de 24 heures à la fois.
Alors, on parle de programme, on a parlé tout à l'heure, Christine, de protocole, de 12 étapes. Est-ce que, pour autant, donc, on commence à assimiler le problème de l'alcoolémie comme une maladie. Est-ce qu'il est reconnu par le monde médical, par
bien
exemple
sûr, comme bien tel, sûr, il est reconnu comme l'AMS.
Ouais.
Et puis, vous avez, donc, dans tous les services de psychiatrie, donc le PSM sur Chalon, des services d'addictologie.
Oui, mais il y a un service à Chalon, je sais, ouais, d'addictologie.
Il y a donc
ça va être le tabac aussi. Hein.
L'USCAR et l'USCAC, qui sont les unités de sevrage à Reims et à Chalon. Et puis, vous avez un centre de post-cure qui s'appelle les Catalones à Chalon. Donc, c'est vraiment reconnu comme...
Donc, au niveau du service public, vous avez un accompagnement qui existe.
C'est-à-dire qu'un malade peut très bien aller se faire soigner. Ça a été le cas de Karim.
Je ne suis jamais passée par un centre. Pardon, j'ai fait plusieurs cures de désintoxication, mais je pense qu'en fait, le côté psychologique, peut-être que c'est les réunions AA qui vous ont plus aidé. Parce que la cure de désintox, c'est accompagné, on sait, il y a des psys.
Tout à fait.
L'hôpital gère le côté physique, l'association gère le côté. Relèvement spirituel. Enfin voilà le.
C'est ce que je voulais dire ouais, en disant voilà. Psychologie.
Je vous le dis.
Mais c'est vrai, c'est bien spirituel, c'est peut-être mieux d'ailleurs que psychologie.
Bah oui, parce qu'en fait, c'est quand même une maladie physique, spirituelle et mentale. Hein, donc le mental, on est bien à l'EPSM par exemple. Mais en fait, même si la post-cure, elle est vraiment géniale, en plus les professionnels qui sont sur cette unité-là vraiment font de l'excellent travail. On travaille en collaboration.
Et vous êtes, oui, c'est la question que j'allais poser, vous êtes en collaboration avec ces services-là régulièrement.
Oui. On intervient, on va faire des informations régulièrement. Donc on est les que ce soit Karim ou moi, on y va régulièrement. Et puis on a mis en place aussi une convention où on va chercher à chacune de nos réunions dites ouvertes à tous.
Mais alors ça, je voulais en parler aussi.
Et donc, on va
les chercher. Types de réunions.
Voilà, on va les chercher. Donc, il y a entre 3 et 6 patients, en général, qui sont actuellement en cure au Catalone. Et donc, ils viennent participer à une réunion.
Et en fait, ça va permettre peut-être un suivi quand ils seront sortis du côté de l'hôpital, de la cure et de la post-cure. Ça peut permettre un soutien à ce que vous exprimez, d'ailleurs.
Mais, tout à fait.
En fait, quand on est en cure, on est dans un espèce de cocon.
Mais après, il faut se refrotter à la vie normale.
Exactement. Et on se retrouve. Et là, comment on gère Et en fait, le but de l'association, c'est d'aider toutes les personnes qui sont dépendantes à l'alcool. Donc, quand on fait ce genre d'intervention publique, c'est pas pour faire du prosélytisme par rapport à l'association. C'est pour expliquer notre parcours déjà.
Ça, c'est bien de pouvoir avoir des modèles.
Voilà. Et ensuite, de dire... Et en fait, c'est quelque chose, c'est une réalité. Le malade alcoolique, le dépendant en général, ne peut pas rester seul.
Non, c'est sûr. Et vous avez des parrains? Ça existe, cette formule de parrain?
Oui, bien sûr.
Parce que dans les films, on voit toujours les parrains avec leurs jetons, les films américains.
Exactement, mais c'est le même principe. Ouais. C'est-à-dire qu'on a, en fait, si vous voulez, on peut choisir en tant que... quand on intègre l'association, pas tout de suite, hein. Moi je ne l'ai pas fait tout de suite, mais à un moment donné, de choisir quelqu'un comme un référent.
C'est ça.
C'est quelqu'un, en fait, il y a beaucoup d'effets miroirs chez... et donc, c'est une personne avec qui on se sent très, très proche.
Oui, c'est ça, il faut la choisir un peu.
On lui demande, voilà, est-ce que tu veux être mon parrain ou est-ce que tu veux être ma marraine? En général, bon, moi, par exemple, j'ai un parrain et une marraine. C'est des gens à qui je me réfère. C'est des gens qui sont très indispensables.
Que vous pouvez appeler si ça va pas ou...
Oui, bien sûr. Mais pas que. Je veux dire, c'est des échanges qui sont en réunion où on va parler de plein de choses, de la vie en général, etc. Tout ça et tout. Mais c'est vraiment des amis de confiance à qui on peut tout dire. Et c'est vraiment, et c'est ça qui est extraordinaire chez les AA, c'est qu'en fait, on a parlé tout à l'heure de la réunion, la table, etc. Mais quand on arrive dans la réunion, en fait, il se passe quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'en fait, on laisse de côté tout ce qu'on... tout ce qu'on pense, tout ce qu'on... En fait, c'est un lieu de libre-échange, sans jugement, sans critique.
Ça, c'est important de le dire. C'est pas une secte, il n'y a pas de partenariat religieux ni politique. Il y a un climat de bienveillance, en fait, total et d'empathie, je suppose.
Bah, complètement. Et c'est-à-dire que même si une personne qui est en réunion dit quelque chose qui ne vous plaît pas, vous n'intervenez pas. Il n'y a pas d'échange. C'est-à-dire que la personne, elle est là pour déposer ce qu'elle a à déposer, comme on peut le voir dans les documentaires, etc. Ouais. Ou dans les
films. Sans jugement.
Sans jugement. On ne rebondit pas sur ce que la personne dit. On peut, par exemple, reprendre un exemple de ce qu'elle a dit, qu'on a trouvé très pertinent, et le reciter, ça, on a le droit. Mais par contre, on ne rentre pas dans un dialogue ou dans quelque chose en disant « moi, je suis d'accord ou pas d'accord ». Non, on est là pour dire ce qu'on a à dire. Souvent... Pardonnez-moi.
Non, allez-y, ouais. Pardon.
Souvent, ce qui se passe, c'est que il y a des choses qui ont été dites. On peut les échanger après la réunion, mais on ne revient pas sur ce qui a été dit. Vous voyez,
enfin. On comprend bien le climat en fait de libre échange, enfin pas d'échange justement, mais de libre parole et d'écoute et de aucun jugement, aucun parti pris. On va faire une petite coupure musicale si Alain veut bien.
Je vous propose Charlie Lee Couture avec un autre Karim, Karim Atouman à la guitare.
Alors
Son père était un hippie qui fumait en famille. Sa belle-mère était juste une pie qui voulait tout ce qui brille. Lui s'emmerdait à mourir depuis qu'il était jeune. C'était la faute de la terre entière s'il manquait de fun. D'abord il fut damné, puis fut condamné. Il s'est mis à déconner comme un guerrier. Il refusait de se faire conditionner. Lui, c'était un héros. Il a fait des allers-retours en maison de redressement. Puis un jour, malheureusement, ça a fini en le sang. D'abord il fut damné, puis fut condamné. D'expliquer que sa vie ne fut qu'un châtiment. Le jury est resté sourd à tous ses arguments. D'abord il fut damné, puis fut condamné. Condamné. Même ses remords sont pas passés, vu ses antécédents, il en a pris pour des années. Jusqu'au jugement dernier.
C'était donc Charlie Lee Couture, damné, condamné. c'était Charlie Lee Couture, je reprends, le micro était coupé, d'année condamnée. Voilà, et on reprend avec 1901, l'Église alcoolique anonyme.
Donc, on était parti, on parlait un peu de l'expérience de Karim, de la, des gens, ce qui l'a surpris au départ, c'est le, les gens heureux dans ce groupe. Et on voulait insister sur le caractère de l'abstinence heureuse, c'est-à-dire que c'est pas une souffrance perpétuelle. Et puis après, je voulais dire un mot, si vous voulez,
oui, pas
Christine.
Du tout. C'est vraiment important de rappeler que ce qui est proposé par l'association, c'est vraiment une vie différente, bien sûr. Mais moi, je tiens pas la table, quoi. Je veux dire, il peut y avoir de l'alcool lors de fêtes, etc. C'est tout à fait librement que je ne boirai pas, que je ne consomme pas.
Mais ça vous empêche pas de participer à des réunions familiales ou même d'aller au café discuter, oui. C'est pas une vie de moine ou de bonne sœur.
Au contraire. Et il y a quelque
on est moins solitaire que quand on est alcoolique, parce que souvent les alcooliques sont très solitaires.
Bien sûr.
Et je veux dire, en fait, on a repris la maîtrise de sa vie. Donc, et on a, moi personnellement, j'ai une, je vais le redire, j'ai une abstinence heureuse parce que j'ai appris à vivre. En fait, pendant toute la période où j'ai consommé, je me suis progressivement isolé.
Mais c'est ce qu'on repère. Hein.
J'ai repris, puisque c'était l'alcool qui gérait ma vie. C'était l'alcool qui gérait ma vie du matin au soir.
Et puis en plus, vous êtes plus riche. Si je peux tomber dans le matérialisme.
Oui, mais c'est-à-dire que, en fait, on fait des choix quand on est dépendant qui correspondent pas aux choix qui nous conviennent ou à notre désir profond.
Ben vous n'êtes plus maître de votre destin quand on est addict.
Exactement.
Comme ça.
Alors que quand on pose son verre, on tient dans son abstinence, on se rend compte que ça va pas. Ça, il faut que j'améliore ça, etc. Et progressivement, en fait, ça peut être plein de choses. On change de boulot.
Vous sentez mieux physiquement aussi, oui, donc ça veut dire qu'on peut plus peut-être faire un peu de sport ou même pas du sport, mais je sais pas, sortir.
Oui, bien sûr. Et puis c'est pareil, comme l'a dit si bien Christine, on ne tient pas la table. C'est-à-dire que moi, ce que l'association m'a appris, c'est à avoir justement à être dans des endroits où il va y avoir de l'alcool avec des gens qui
vont consommer.
Qui vont consommer et ça ne me posera aucun problème. Bien au contraire. Et je veux dire, on peut s'amuser. Bon, si je vois, par exemple, c'est vrai qu'il peut m'arriver, par exemple, de me retrouver avec des gens qui ont énormément consommé. Bon, mais comme n'importe qui, je veux dire, au bout d'un moment, ça devient fatigant. Donc, c'est pas par rapport à mon abstinence que je m'éloigne. C'est parce que, bon, il n'y a plus de conversation possible. On sait très bien.
Non, quand les gens sont ivres, morts, juste pompettes, c'est plus. Chacun parle dans son coin.
Comme tout le monde. Voilà.
Alors, je suis obligée de vous...
Ça va vite, hein.
Ça va trop vite, oui, finalement, cette demi-heure. Donc, il nous reste 2 minutes. Alors, je voulais qu'on parle un peu du rapport des femmes chez les alcooliques anonymes. Parce que, déjà, l'alcoolisme, on le disait en aparté pendant le morceau musical, un homme, ce que vous disiez, Christine, un homme qui boit, c'est pas beau. Mais alors, une femme qui boit, c'est très mal vu.
Culturellement, dans notre éducation, de toute façon, les femmes, on est un peu, même si c'est plus tout à fait vrai, mais on est quand même élevées pour être de bonnes filles, épouses, mères, salariées,
que des qualités, etc.
Que des qualités.
Qu'on a pour la plupart, mais...
un peu fragiles.
De façon générale, on n'a pas trop évoqué les relations familiales.
On va y venir.
Allons-y.
Et donc, c'est vrai que l'alcoolisme au féminin, c'est vraiment très particulier parce que on est obligé de cacher. Donc, moi, j'ai beaucoup caché et toutes les filles que j'ai entendues, toutes les femmes que j'ai entendues en réunion, elles sont plus dans le mensonge, déjà à elles-mêmes, bien sûr, mais à l'entourage. Donc, on planque nos bouteilles et on est un peu plus dans le déni, on est plus profond dans le déni. Donc, quelquefois, c'est compliqué. Moi, j'avais plutôt un alcoolisme cyclique, c'est-à-dire que j'avais des moments où j'arrivais à ne pas consommer qui me leurraient, en fait, parce que comme j'avais des semaines...
Vous gériez, vous arriviez.
J'arrivais, je pensais que j'arrivais à gérer. Bon, évidemment, de plus en plus court. Et ça, c'est un autre problème. Et si vous voulez, ça, c'est extrêmement compliqué. Mais c'est vrai que moi, je sais pertinemment que mon entourage a souffert de ma dépendance. Et il y a une association qui est vraiment très cousine avec la nôtre, qui s'appelle Al-Anon. Donc qui accompagne, accueille les personnes qui sont autour de la famille, des parents.
Alain, non, mais il y a même pour les... J'ai lu Alatine, moi aussi, pour les enfants, oui. Les teens.
Les teenagers. Ouais. Bon, voilà. Donc, Alanon, Alatine, effectivement. Mais l'association Alanon, en fait, permet de... Parce qu'en fait, ce qui est terrible, hein, c'est que l'alcoolique est malade. Ça, on le sait. Mais ce qu'on oublie, c'est que...
Les conséquences sur l'entourage.
C'est une maladie familiale. C'est-à-dire que la famille a des... Voilà, c'est de la codépendance, donc il y a aussi des choses à faire.
La famille ne comprend pas, et l'alcoolique ne comprend pas que la famille ne comprenne pas. Et ça, c'est vraiment... en fait, donc l'alcoolique, pour lui, c'est sa famille qui le gêne dans son, et alors que la famille, en fait, elle attend qu'une chose, c'est que l'alcoolique se sorte de son alcoolisme, de sa dépendance. Et on met du temps à se réconcilier, mais ça fonctionne.
Alors, j'ai une de mes filles, excusez-moi, je veux juste pour l'anecdote, qui n'en est pas une, parce que pour moi c'est très important. Quand j'ai posé mon verre, ma fille aînée était en rupture familiale. Elle est restée en tout 7 ans en rupture familiale. Je peux vous assurer que c'est très très long. Mais quand elle a voulu revenir et qu'elle a vu que j'avais une vie qui était différente de celle que j'avais auparavant, en fait elle est revenue et aujourd'hui elle est là. Et là, ça fait X années qu'elle
est revenue. Ça, c'est un bénéfice énorme. Ah,
ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Moi, j'ai reconstruit ma vie, ma famille, mon entourage. J'ai réussi à changer de travail X fois parce que ça ne me convenait pas. Alors qu'avant, le travail, pour moi, c'était quelque chose de souffrant, de douloureux.
Bah oui, puis de toute façon, quand on boit trop, c'est régulier, quasiment tous les jours, j'imagine. Et on n'est pas bien physiquement.
Ah bah, on est bien. Aucun niveau ne va bien.
Alors écoutez, je vous remercie Christine et Karim, c'est un peu court, mais là on arrive au bout de l'émission, je vous remercie beaucoup.
Merci de nous avoir invités, c'est chouette, parce qu'on est anonyme mais pas invisible.
C'est bien vu ça, anonyme mais pas invisible. Et donc je rappelle aux auditeurs, auditrices, qu'il y aura le podcast qui sera mis sur le site de Radio Mono, et je rappellerai les contacts à Reims et à Chalon.
Tout à fait. Et des réunions ouvertes à tous, qui sont accessibles à toutes les personnes qui ont envie de vivre une expérience de la réunion alcoolique anonyme.
Merci à
beaucoup,
vous.
Radio. Je dirais juste une chose, venez, ça marche.
Ah bien, venez, ça marche.